Jésus, portant sa croix, sortit de la ville pour aller vers l'endroit appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate rédigea aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était écrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. Les chefs des prêtres des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas « le roi des Juifs », mais plutôt « cet homme a dit « je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit « ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Après avoir crucifié Jésus, les soldats prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'une seule pièce depuis le haut jusqu'en bas. Ils se dirent entre eux « ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle sera ». C'est ainsi que s'accomplit cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort mon habit. Voici ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'Écriture se réalise pleinement, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'était la préparation de la Pâque et ce sabbat allait être un jour solennel. Craignant que les corps ne restent en croix pendant le sabbat, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes aux crucifiés et qu'on enlève les corps. Les soldats vinrent donc briser les jambes du premier, puis du second des condamnés qui avaient été crucifiés avec Jésus. Quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu ces choses en rend témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la vérité afin que vous croyiez aussi. En effet, cela est arrivé afin que ce passage de l'Écriture soit accompli. Aucun de ces os ne sera brisé. Ailleurs, l'Écriture dit encore, « Ils verront celui qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des chefs juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Pilate le lui permit. Il vint donc et enleva le corps de Jésus. Nicodème, l'homme qui auparavant était allé trouver Jésus de nuit, vint aussi. Il apportait un mélange d'environ 30 kilos de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes, avec les aromates, comme c'était la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin à l'endroit où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un tombeau neuf où personne n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus parce que c'était la préparation de la Pâque des Juifs et que le tombeau était proche.
Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous avons entendu là des paroles qui ont du poids, qui ont traversé l'histoire, et nous aimerions les prendre à leur mesure. Donne-nous, par ton esprit, de les comprendre et d'en vivre au nom de Jésus. Amen. Le PDG de Periscope est venu à Paris jeudi dernier. C'était l'occasion pour le journal Le Parisien de l'interviewer sur ce nouvel outil de communication. Periscope, moi je ne connaissais pas non plus, hein, mais c'est un outil qui permet avec un smartphone de filmer quelque chose qui est retransmis et ça permet à ceux qui assistent à cela de commenter ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent. Mais c'était aussi, dans cet entretien, l'occasion de revenir sur deux utilisateurs qui ont fait parler d'eux en utilisant Periscope. Le premier, c'est un joueur du PSG, Serge Aurier, qui a eu des propos vis-à-vis de ses coéquipiers et aussi au sujet de son entraîneur et qui, pendant un temps, là, est exclu de la première équipe. Le second, c'est le président François Hollande qui se rendait dans une entreprise et qui avait donc des échanges et les images étaient projetées, commentées, et souvent c'était assez négatif, au point où les médias se sont demandé si c'était un fiasco d'utiliser cet outil qui, de toute évidence, était difficile à contrôler. Dans le texte qu'on a lu, on pourrait avoir l'impression à plusieurs endroits, et même sur l'ensemble, que ça ressemble à un fiasco, dérapage sur dérapage. Prenez la communication écrite, il y a cette discussion entre Pilate et les prêtres au sujet du motif de la condamnation. N'écris pas « le roi des Juifs », mais plutôt « cet homme a dit « je suis le roi des Juifs ». Et Pilate qui répond « ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Un dérapage. L'autre, c'est tout simplement les traitements infligés à Jésus. Ils ont déjà fait, les soldats, une parodie du couronnement de Jésus. Et là, ils vont jusqu'à se partager ses vêtements. Est-ce que c'est un dérapage et incontrôlé? Et sur l'ensemble, on a l'impression que Jésus est un peu le jouet de Pilate et de ses soldats, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent à Jésus. Dans les spécificités de Jean par rapport aux autres évangélistes, on trouve par exemple le fait qu'il parle de cette controverse de l'écriteau, qu'il parle de ses références à l'accomplissement des Écritures, quatre références, les paroles de Jésus à sa mère et à Jean. Une autre spécificité, c'est ce qu'il crie juste avant sa mort. Tout est accompli. Tout est accompli. Jean insère donc volontairement des éléments écrits et oraux au sujet de ce qui s'est passé ce jour-là. Et toute l'emphase est mise sur ces paroles. Tout est accompli. Tout est accompli. Ce qui est écrit et ce qui est dit concourt pour nous assurer que le plan de Dieu en Jésus, le roi et l'agneau, est accompli. Et au fil du texte, on va essayer de relever, parce que Jean semble vouloir le faire, devant nos yeux, à nos oreilles, un témoignage qu'il a soigneusement pris le temps de méditer et de rédiger, mélangeant ce qui est écrit et ce qui est dit. Ce qui est écrit, ce qui est dit, c'est ce qu'on va faire au fil du texte. On commence avec ce qui est écrit. Dimanche dernier, on a vu comment Pilate menait ce procès avec Jésus. Et dans ce procès, alors qu'il devait être à la recherche de la vérité, et qu'il a la vérité en face de lui, il incarne Jésus, on réalise qu'il préfère céder au mensonge pour faire accuser Jésus. Pour condamner Jésus. On s'attendrait dans un procès à la culpabilité de l'accusé, mais en fait, c'est la culpabilité de Pilate et des autres accusateurs qui est mise en évidence. L'innocence de Jésus en même temps. C'est bien Jésus, lui, pourtant, qui va être livré pour être crucifié. Si on pense à ce supplice de la crucifixion, il y a deux termes qui pourraient nous venir à l'esprit, c'est la honte et l'horreur. La honte et l'horreur. Par cette sentence, on exposait une personne dévêtue sur une croix. La honte, mais l'horreur aussi. Tous les traitements infligés avant la crucifixion et ce traitement-là, cette mort douloureuse. Et à la pénible sentence s'ajoutait le fait de devoir soi-même porter sa croix. Jésus doit porter probablement la partie horizontale de la croix, après avoir lui-même été battu, flagellé. Il est mené à l'extérieur de la ville, le lieu du crâne, en hébreu Golgotha. Il est difficile de savoir tout ce qui se passe dans l'esprit de Jean, alors qu'il met cela par écrit, ou même sur le moment, tout ce qu'il a réalisé. Mais très probablement, en arrière-plan, il y a ce texte qu'on a lu tout à l'heure, Ésaïe 53, où il devait réaliser qu'il était comme celui qui était traité injustement à cause de nos injustices. Peut-être aussi le fait qu'il est mené à l'extérieur de la ville, tous ces versets sur le fait que certains déchets, certaines choses devaient être amenées à l'extérieur de la communauté. On voit qu'il y a un lien qui est fait avec les Écritures, les sacrifices dans l'Ancien Testament. Et c'est dans ce contexte-là que Jean nous parle de la crucifixion, avec ces liens qui se font à son esprit. Mais remarquez que ni lui ni les autres évangélistes n'entrent dans le détail des souffrances qui sont imposées à Jésus. On pourrait imaginer quelqu'un qui nous met tout cela devant les yeux pour susciter des émotions fortes. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. L'accent est ailleurs et peut-être ça nous surprend. Par exemple, cet échange au sujet de l'écriteau. Est-ce que c'est simplement une conversation qui a eu lieu et il se dit, allez, pourquoi pas, je vais mettre ça dans mon témoignage. C'était la coutume de mettre sur un écriteau le motif de la condamnation, porté par le condamné et ensuite cloué à la croix. Mais on trouve ici une ironie à plusieurs niveaux. Le premier niveau de l'ironie, c'est que, est-ce que Pilate croit vraiment que le roi des Juifs, c'est lui ? Non, bien sûr que non. Et on peut entendre en arrière-plan un peu cette rivalité qu'il y a eu entre lui et les prêtres. Ils ont poussé après tout, ils l'ont même fait chanter en quelque sorte. « Tu n'es pas l'ami de César !» Ok ? Vous l'accusez de sédition ? Eh bien, on va l'appeler le roi des Juifs. Jusqu'au bout, on va l'appeler le roi des Juifs. Mais là, les prêtres demandent à Pilate, précise que c'est ce qu'il a dit de lui-même, c'est pas ce qu'il est. Pilate répond, ce qui est écrit est écrit. Premier niveau d'ironie. Mais le deuxième, c'est que Jésus est présenté à Pilate comme le roi des Juifs, le Messie. Et cette inscription, elle sera vue de tous, à l'entrée de la ville, en trois langues, en hébreu, la langue des Juifs, en latin, la langue de l'armée romaine, en grec, la langue communément parlée dans le bassin méditerranéen. Tout le monde peut voir qu'il nous est présenté comme le roi des Juifs. Et ce petit incident anodin de ce qui est écrit, ce qui devait être écrit, révèle qu'il est bel et bien le roi, qu'il doit être présenté comme le roi. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Jésus l'avait annoncé. Il doit être le roi élevé. Il est le roi élevé sur une croix, comme il l'avait dit. Ce qui est dit et ce qui est écrit contribue à nous dire que Jésus est bel et bien le roi. Quelqu'un pourrait dire, mais ça c'est lire entre les lignes. Il n'y a rien d'un roi dans un homme qui se fait battre, qui se fait clouer à une croix. Il n'y a rien d'un roi là. Alors poursuivons pour vérifier. Les soldats qui l'ont crucifié se partagent ses vêtements. Et Jean nous fait entrer dans la conversation au moment d'attribuer la tunique. Elle est faite d'une seule pièce. Et pour éviter de la déchirer, eh bien, il décide de la tirer au sort. Et là, on se dit, mais il est à la merci des événements. Tout lui échappe, même ses vêtements. Un tirage au sort, il est comme victime du hasard, de la chance, alors qu'il est tenu à la croix par des clous et qu'il assiste à tout cela. Est-ce qu'on devrait le présenter comme un roi qui règne, qui est souverain, qui a autorité ? N'est-ce pas l'apothéose de la vulnérabilité ? Et pourtant, Jean veut nous dire que c'est bien lui le roi. Et il voit un accomplissement dans ce qui se passe. Il y a une unité ici encore entre ce qui est dit et ce qui est écrit. Pensez à une parole qui a été rédigée par le roi David des siècles plus tôt, psaume 22. Là, tout ressemble au hasard dans ce qui se passe. On joue un jeu de sort, c'est la loi de la jungle, on s'en prend à lui, on prend ses vêtements, mais c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Et tout en prenant des décisions libres, responsables, ces soldats sont en train d'accomplir le projet de Dieu. C'est le projet et le plan de Dieu qui s'accomplit. Et c'est l'occasion de nous demander à nous, nous qui sommes croyants, quand on a le sentiment d'une extrême fragilité, sentiment que les choses nous échappent complètement, que nous sommes victimes des circonstances, est-ce qu'on peut croire à la royauté de Jésus, à son règne, Est-ce qu'on peut croire qu'il est maître et souverain de nos circonstances? Jésus nous a préparé. Il a préparé cela avec les disciples. Et ils ont encore de la peine à le réaliser. Mais notre sort éternel est scellé, garanti, gardé, promis par Jésus. La vie éternelle et la sécurité éternelle de ses enfants est promise. Et si on regarde, et on doit regarder, à ce moment-là où tout semble échapper au roi, on doit le faire avec l'assurance que c'est bien le projet de Dieu qui s'accomplit. Il nous invite à regarder à ce moment-là, parce que Jean est témoin de ces circonstances. Oui, Pilate et les prêtres peuvent faire leur guéguerre sur ce qui est écrit ou devrait être écrit. Ce qui est écrit est écrit. Les soldats peuvent se partager les vêtements comme ils veulent, au tirage au sort. Ce qui est écrit est écrit. Jésus est bien le roi, et c'est écrit. On passe ensuite à ce qui est dit. Dans les versets 25 à 27, on trouve déjà un contraste entre les soldats qui se comportent comme des barbares et ces femmes qui assistent à la scène dignement, fidèlement attachées à Jésus. Marie, la mère de Jésus, sa sœur. Il y a aussi Marie, la femme de Clopas, Marie de Magdala. Et vous avez peut-être l'impression, qu'est-ce que c'est que tous ces noms? On s'y perd, Marie, Marie, Marie. Pour un spécialiste du Nouveau Testament, Richard Bauckham, c'est un des éléments qui met en évidence l'authenticité des textes. Dans les prétendus évangiles qui viennent par la suite, qu'on appelle aussi les gnostiques, les évangiles gnostiques, ils sont caractérisés par une absence criante de noms. Ici, on a des noms qui doivent être distingués, comme sur Wikipédia, on doit distinguer entre les Maries. Preuve, justement, qu'ils connaissaient bien les personnes, qu'ils voyaient de qui il s'agissait. Qu'il n'est pas en train d'inventer des noms, il est en train de nous donner toutes les précisions dont on a besoin en tant que témoin de ces choses. Jésus s'adresse d'abord à Marie et pour lui dire « Femme, voici ton fils » et à Jean pour lui dire « Voici ta mère ». Pourquoi ces paroles de Jésus à l'intention de sa mère? Mais on peut se souvenir qu'au début de cet évangile, vers le début, au chapitre 2, on a vu la mère de Jésus qui invite Jésus à aller au devant de la scène au moment des noces de Cana, et Jésus qui affirme que son heure n'est pas encore venue. Là, maintenant, son heure est venue. Et il montre que la volonté de son père n'est pas en contradiction avec le fait de prendre soin de sa mère. Sa mère, sur un plan terrestre, humain, il en prend soin, tout en accomplissant la volonté de son père. Une autre parole qui est dite, c'est « J'ai soif » au verset 28, compte tenu de tout ce que la crucifixion représentait. On comprend déshydratation, perte de sang, transpiration, la chaleur. Il dit « J'ai soif ». Mais même dans ce besoin extrême, il y a une précision afin que l'écriture se réalise. Question d'un accomplissement, et en fait de plusieurs accomplissements dans ces versets, succession de verbes avec la même racine, accompli, réalisé pleinement, et cette parole, tout est accompli. Et là encore, il y a correspondance entre ce qui est dit et ce qui est écrit. Jésus a pleinement conscience d'accomplir le projet de son Père, d'accomplir les Écritures. Il n'est pas victime des circonstances. C'est intéressant d'ailleurs de relever que c'est lui qui est le sujet des verbes. Il est dans une situation extrême, mais c'est lui qui remet son esprit. C'est lui qui dit « j'ai soif ». C'est lui qui parle. À quoi est-ce qu'il fait référence, Jésus, en disant que tout est accompli, ses paroles? Peut-être au psaume 22, justement. « Ma force dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. » On voit aussi dans le psaume 69, verset 22, « Et pour apaiser ma soif, il me donne du vinaigre. » Même dans la fragilité la plus apparente, ce sont les Écritures qui s'accomplissent, des Écritures rédigées des siècles plus tôt. C'est bien son projet qui s'accomplit. Et il le dit dans ses paroles, tout est accompli, après quoi il rendit l'esprit. De qui est-ce qu'on attend un tout est accompli? On l'attend peut-être d'un Michael Phelps qui a remporté 19 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Tout est accompli. On l'attend peut-être d'un Usain Bolt qui a le record du monde du 100 mètres en 9 secondes 58 centièmes. Le tout est accompli ici vient de la bouche de quelqu'un à qui on a enlevé les vêtements. On l'a cloué sur une croix. Il crie « J'ai soif ». Mais c'est lui qui a tout accompli. C'est tout sauf ce qu'on attend. Et pourtant, il y a bel et bien une victoire. Alors, c'est quoi cette victoire? C'est quoi cette victoire qu'il remporte? Il tente de revenir à ce qui est écrit. Et au verset 31-32, on lit la chose suivante. C'était la préparation de la Pâque et ce sabbat allait être un jour solennel. Craignant que les corps ne restent en croix pendant le sabbat, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes au crucifié et qu'on enlève les corps. Référence à la Pâque, simple détail que Jean pense qu'il est utile de mentionner juste là. Où est-ce que ça a du sens? La Pâque, ce n'est pas n'importe quelle fête pour le peuple juif. C'est un moment fondateur pour la nation. Souvenir d'une nuit en Égypte alors qu'ils étaient encore esclaves, au temps de Moïse, et où il fallait célébrer cette première Pâque, le sacrifice d'un agneau dont le sang allait être répandu sur les montants d'une porte. Pourquoi? Pour que ce peuple qui a foi en Dieu se sache préservé du jugement qui va passer sur toute l'Égypte, la mort de qui? Des premiers-nés, premiers-nés dans chaque famille. Et ici, c'est la Pâque. L'ironie veut que les prêtres, ils ne veulent pas laisser les corps être suspendus le jour de la Pâque. C'est terrible quand même. Ça fait des ordres. Peut-être qu'il y a peut-être une application d'une loi au sujet de l'impureté, mais même, ça paraît ironique, ils sont soucieux de la pureté alors qu'ils viennent de tuer un innocent. Ils sont soucieux de préserver le sabbat, et ils viennent de tuer le maître du sabbat. Ils sont soucieux de préserver la Pâque, mais ils viennent de tuer le Fils de Dieu. C'est l'ironie. Et c'est l'occasion pour Jean de relever ce qui s'accomplit sous ses yeux. Pour que les crucifiés soient retirés de la croix, on veut s'assurer qu'ils soient morts. D'où les soldats qui sont envoyés pour briser les jambes. C'est par asphyxie, généralement, qu'un crucifié mourait. Et en se maintenant avec ses jambes, c'était le moyen de survivre un peu plus. En brisant les jambes, c'est ce recours qui leur est enlevé. Mais au moment d'arriver à Jésus, ils ne lui brisent pas les jambes parce qu'il est déjà mort. Et pour s'assurer qu'il est bien mort, on le transperce d'une lance. Et là, Jean voit l'importance de nous dire, celui qui a vu ces choses en rend témoignage, et son témoignage est vrai, il sait qu'il dit la vérité, afin que vous croyiez aussi. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'on pourrait douter que Jean essaie de nous faire un scénario. On pourrait en douter. Pourquoi? Parce que ce qui se passe là est là encore l'accomplissement des Écritures. Prenez aucun de ces os ne sera brisé. C'est une des recommandations de la Pâque, que les os de l'agneau qui doit être sacrifié ne soient pas brisés. Exode 12, 46 ou Nombre 9, verset 12. Et pour les lecteurs, on doit se souvenir encore de l'exclamation de Jean le baptiseur, tout au début du livre, qui crie. Il crie quoi? Pour ceux qui étaient là. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. D'un bout à l'autre, c'est bien lui l'agneau. Et le deuxième passage, ils verront celui qu'ils ont transpercé, parole du prophète Zacharie, où il est question du peuple d'Israël qui regardera vers Dieu, un peuple qui est caractérisé par le manque de foi, mais qui regardera à celui qui a été transpercé. Et Jean anticipe notre réaction à tous, notre réaction de sceptique. Il nous invente quelque chose. Il nous invente un scénario. Et il faut nous poser des questions. Est-ce qu'on va lire toutes ces allusions aux Écritures avec scepticisme en disant « c'est quelque chose qui monte de toutes pièces » ou est-ce qu'on va voir le projet magistral de Dieu qui s'accomplit ? Est-ce qu'on voit tout cela avec une bonne dose d'incrédulité en se disant que la mort de Jésus n'a rien à voir avec nous ? Ou est-ce qu'on réalise que sa mort en tant qu'agneau de Dieu est là pour nous préserver d'un jugement réel de Dieu vis-à-vis de chaque être humain ? Est-ce qu'on voit Jean et les autres comme des gens asservis, des gens bernés par un soi-disant Messie ? Ou est-ce qu'on voit des personnes qui ont cru en Jésus et qui ont expérimenté, et qui nous invitent à notre tour à expérimenter la libération d'un autre esclavage, l'esclavage au péché? Est-ce qu'on voit un homme avachi par la souffrance? Ou est-ce qu'on voit le roi qui débute un règne? Par le témoignage qu'il rédige, Jean veut nous amener au positionnement. Et de manière assez surprenante, tout à fait étonnante, il nous donne deux personnes qui se sont positionnées, qu'on n'attendait pas dans le récit, qu'on n'attendait pas du tout, si on a lu le reste de l'évangile. Joseph d'Arimathée, il est décrit comme un disciple secret par crainte des Juifs. Nicodème, l'homme qui auparavant était allé trouver Jésus de nuit. Et ce qui est sous la plume de Jean, ce qui est dit là, n'est pas très flatteur pour les deux. Le fait qu'il soit secret, le fait qu'il soit venu de nuit, à la fois dans la crainte, peut-être dans l'incompréhension par rapport à Jésus, ils sont en retrait par rapport à Jésus jusque-là. Et pourtant, ce qu'ils font ici est remarquable. Au moment le plus inattendu, au moment de la mort de Jésus, c'est là qu'ils viennent au grand jour. Alors qu'ils ont beaucoup à perdre, tous les deux pharisiens, tous les deux en vue, ils ont beaucoup à perdre et pourtant c'est là le moment pour eux de venir au grand jour. Quelqu'un pourrait dire, mais c'est trop tard, il est mort. Fallait venir plus tôt, fallait le dire plus tôt. Mais ils ont eu raison et la suite le montrera. Ils ont eu raison de venir là et c'était pas trop tard. On entend beaucoup parler d'hypocrisie des pharisiens dans les évangiles. Et on entend parler d'hypocrisie aujourd'hui encore. Pensez à ce qui se passe au Brésil, dans le contexte d'accusations de corruption contre l'ancien président Lula. Certains manifestants scandent des paroles que Lula avait lui-même prononcées en 1988. Quand un pauvre vole, il va en prison. Quand un riche vole, il devient ministre. C'est l'ironie de l'histoire, c'est l'ironie de son histoire, c'est l'ironie de nos histoires. Nous sommes tous des hypocrites. Chacun d'entre nous, on a dit, on a dénoncé quelque chose chez l'autre, qu'on en a soi-même discrètement ou allègrement pratiqué. Et il n'est pas trop tard pour reconnaître nos hypocrisies, comme il n'était pas trop tard pour un Nicodème ou un Joseph d'Arimathée. Ce qui est écrit, ce qui est dit, concourt pour nous assurer que le plan de Dieu en Jésus, qui est le roi et l'agneau, est parfaitement accompli. Alors pourquoi est-ce qu'on resterait caché? Pourquoi est-ce qu'on resterait hypocrite? Pourquoi pas croire en ce projet accompli en Jésus? Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour le témoignage de Jean qui nous place devant ces vérités et qui nous invite au positionnement. Et donne-nous par ton esprit le même courage que tu as donné à un Nicodème, à un Joseph d'Arimathée, pour aller chercher le corps de Jésus. Donne-nous ce courage-là pour nous dire disciples de Jésus, avoir foi en son pardon. Au nom de Jésus. Amen.